Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature et la découverte d'un mécanisme d'activation des gènes.
Et on ne comprend pas encore très bien quelles sont les séquences d'ADN qui dirigent l'activation des gènes. Les gènes qui codent notre matériel génétique sont transcrits en molécules d'ARN pour être ensuite traduits en protéines. On sait que un quart de nos gènes possède une boîte Tata, une zone située sur une portion du gène qui en dicte la transcription et la traduction. Mais qu'en est-il des gènes sans Tata Box ? On soupçonnait l'existence d'une zone DPR sur un gène, le Downstream Promoter Region, la région promotrice du noyau en aval. Cette équipe californienne a cherché à débusquer cette zone. Avec une approche de machine learning, d'apprentissage machine, ils ont créé une immense bibliothèque d'ADN de 200 000 séquences. Leur modèle a ainsi prouvé que la présence du DPR est très fréquente dans l'ADN, autant que les boîtes Tata. Les applications biotechnologiques et biomédicales sont nombreuses. Ingrid Lafontaine est enseignante-chercheuse à la Sorbonne Université en bioinformatique. Elle s'intéresse à l'évolution des génomes.
La fameuse boîte Tata, elle se trouve, donc la transcription des gènes, elle démarre à un site qu'on appelle le site initiateur de la transcription. Et la boîte Tata, elle est avant, elle est codée dans la molécule d'ADN avant ce site initiateur de la transcription. Donc c'est un promoteur en amont du site d'initiation de la transcription, la fameuse Tata Box. Et comme il est rappelé dans l'article, tous les gènes humains ne possèdent pas cette fameuse boîte Tata. Il n'est pas possible d'identifier toutes les séquences promotrices humaines avec en recherchant uniquement la boîte Tata. Il y a d'autres éléments qui sont caractéristiques des séquences promotrices, et celles qui ont été étudiées dans cette étude qui est parue dans Nature se trouvent en fait au-delà de la boîte du site d'initiation de la transcription. L'importance de cette étude, c'est que en générant des milliers de séquences artificielles, ils ont pu très finement décrypter les propriétés de séquences requises pour obtenir une activité. Cette étude permet de décrire beaucoup plus précisément les propriétés de ces séquences DPR. Ce modèle permet d'estimer l'efficacité d'initiation de la transcription de ces régions DPR. Et si on a des mutations, donc qui peuvent avoir un impact dans certaines maladies, effectivement, ce modèle peut essayer de prédire, de modéliser l'impact de la mutation, donc de la maladie, sur l'expression du gène. Donc oui, effectivement, ça fournit des outils qui permettent de mieux caractériser l'effet d'une mutation, donc qui peut être impliquée dans une maladie.
En bref, selon une étude qui était publiée aujourd'hui dans la revue Science, la transcription génétique est différente selon les sexes.
Est-ce que l'héritage des chromosomes sexuels XX ou XY influence ou non le transcriptome humain ? C'est la question posée par cette équipe internationale avec cette vaste étude menée pendant 10 ans. Sur plus de 800 personnes, les chercheurs ont mesuré les niveaux d'activation des gènes humains sur 44 types de tissus différents. Peau, cerveau, muscles, tissus mammaires. En tout, ils ont analysé plus de 16 000 échantillons de séquençage d'ARN. Résultat, on observe une légère différence induite par le sexe biologique. 38% des gènes sont activés différemment entre les hommes et les femmes. Cette variable biologique peut avoir des implications thérapeutiques. Peut-être faudrait-il se tourner vers une médecine encore plus personnalisée.
Deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine, une étude parue dans Monthly Notice of the Royal Astronomical Society pose une question: comment différencier la photo d'un trou noir de celle d'une étoile à boson, une étoile bosonique?
Une étoile bosonique a beaucoup de points communs avec un trou noir. C'est un objet théorique étrange que nous n'avons jamais repéré. Là où les étoiles sont principalement constituées de fermions, les particules élémentaires de notre univers, protons, neutrons, électrons, les étoiles bosoniques, elles, seraient entièrement constituées de bosons. Elles seraient extrêmement massives, elles n'émettraient pas de rayonnement et seraient donc par conséquent invisibles. De plus, certaines étoiles à bosons pourraient être entourées d'un anneau rotatif de plasma qui ressemblerait au fameux disque d'accrétion des trous noirs. Les chercheurs du consortium de l'EHT, l'Event Horizon Telescope, ceux à qui l'on doit la première image du trou noir M87 étoile l'an dernier, ces chercheurs se sont demandé comment être bien sûr que cette image est bien celle d'un trou noir. Frédéric Vincent est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Lesia de l'Observatoire de Paris. Il travaille sur l'environnement des objets compacts.
L'article auquel on s'intéresse calcule des images théoriques d'une image de l'environnement d'un trou noir et de l'image de l'environnement d'un autre objet compact qui s'appelle une étoile bosonique. Et donc cet objet-là, il est très très différent d'un trou noir quand on le regarde de près, l'étoile bosonique n'a pas d'horizon des événements. Donc c'est très naturel de le considérer et de regarder à quoi ressemble l'image d'une étoile bosonique et de la comparer avec l'image d'un trou noir. Parce que par exemple, si on imagine qu'on n'avait aucune différence entre l'image des abords d'un trou noir et l'image des abords d'une étoile bosonique, ben on serait vraiment très mal barré pour arriver à dire quoi que ce soit sur la nature des objets au centre de la galaxie Messier 87 ou de la Voie lactée ou de quoi que ce soit d'autre. Donc l'objectif de l'article, c'est de réaliser des simulations du devenir de la matière. Donc vous mettez des électrons, des protons, voilà, de la matière, ce qu'on appelle un plasma, de la matière très chaude. Vous saupoudrez un petit peu les abords de votre étoile bosonique et vous laissez tout ça évoluer. Vous faites la même chose avec un trou noir et vous regardez les différences. Et la deuxième étape du travail, c'est de calculer l'image qui serait observée par l'Event Horizon Telescope de cet objet-là. Donc là, vous calculez comment est-ce que la lumière émise par cette matière se propage depuis l'environnement du trou noir ou de l'étoile bosonique jusqu'au télescope. Et le résultat qui est mis en avant, c'est de dire, oui, on voit une différence notable entre une image de trou noir et une image d'étoile bosonique. La différence est la suivante, c'est que l'image obtenue est plus petite, elle est plus concentrée lorsqu'on considère une étoile bosonique, et elle est plus grande, plus étendue, lorsqu'on considère un trou noir. Donc ça, c'est très intéressant si c'est vrai, parce que ça veut dire que on peut regarder sur l'image de l'EHT, de l'Event Horizon Telescope, la taille de l'image effectivement observée, et on peut voir est-ce que ça correspond à ce que prédit un trou noir ou est-ce que ça correspond à ce que prédit une étoile bosonique.
En bref, dans Scientific Reports, cette fois, des chercheurs ont séquencé l'ADN mitochondrial de l'homme de Néandertal européen, vieux de 80 000 ans.
Et c'est le séquençage d'ADN le plus ancien d'Europe. Il a été réalisé par une équipe internationale à partir d'une molaire de Néandertalien, découverte sur le sol de la grotte de Stajnia, en Pologne. Les résultats révèlent des affinités génétiques entre la Pologne et le Caucase du Nord. Le génome mitochondrial de la dent est plus proche d'un spécimen néandertalien du Caucase que des Néandertaliens contemporains d'Europe occidentale. De plus, les outils en pierre trouvés sur le site sont également proches de ceux que l'on trouve dans les régions du Sud. Nos ancêtres étaient tous des migrants, en voici encore une preuve.
Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de stratégie de dépistage du Covid et des laboratoires sous haute tension, du rapport sur le vivant du WWF et de l'extinction d'espèces animales, de la découverte d'un mécanisme moléculaire qui expliquerait certains cas graves de Covid et de Françoise Combes qui a obtenu et gagné à juste titre la médaille d'or du CNRS, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref.
Une étude dans la revue Nature vient de percer le mystère de l'origine du courant de Magellan. Ce flux stellaire qui s'enroule autour de notre Voie lactée, en deux filaments de gaz, suit la trajectoire de nos petites galaxies voisines, les nuages de Magellan. Mais voilà 50 ans que ce courant est un casse-tête pour les astronomes. Sa masse déroute. Selon cette étude, ce flux viendrait des halos galactiques des nuages de Magellan, la couronne de Magellan. Il aurait ensuite été façonné par les forces de marée de notre galaxie pendant environ 5,7 milliards d'années. On le sait, le stress peut entraîner des insomnies et provoquer une immunosuppression quand le système immunitaire s'affaiblit. Des chercheurs américains viennent d'en identifier le circuit cérébral. Il s'agit de la même voie neuronale qui lie insomnie, stress et immunité affaiblie. Cette zone de l'hypothalamus latéral serait un interrupteur assez sensible. Et enfin, les goélands prêtent bien attention au regard des humains. Des chercheurs ont montré que ces oiseaux marins fuient plus rapidement lorsqu'ils sont observés. Lors d'une expérience sur une centaine d'oiseaux, les scientifiques s'approchaient des mouettes, soit en les regardant directement, soit en regardant ailleurs. Les chercheurs pouvaient se rapprocher beaucoup plus près lorsqu'ils ne regardaient pas dans les yeux les oiseaux. De plus, même les très jeunes goélands se méfient du regard des humains.
Malheureusement, l'étude n'a pas été faite avec des frites, ce qui peut changer le rapport de la mouette au regard. Bref, allez, on termine comme tous les vendredis par la rubrique des sciences improbables. Et aujourd'hui, Natacha, selon une étude parue dans le Journal of Psychoactive Drugs, qui est donc un journal que je ne connaissais pas, les trips sous LSD sont proches d'authentiques expériences mystiques.
Et c'est un papier qui explore les liens entre le psychédélique et le spirituel. Ces chercheurs finlandais ont interrogé 288 personnes sur leur expérience sous LSD avec le questionnaire du MEQ30, le questionnaire sur l'expérience mystique en 30 questions. Alors même lorsqu'ils sont pris pour la première fois, les psychédéliques peuvent provoquer des expériences puissantes, proches de celles expérimentées par les mystiques. Certains consommateurs décrivent même des changements de vie positifs. Satisfaction de vivre, bien-être, conscience accrue d'un monde intérieur, ou encore impression de transcender le temps et l'espace. C'est des témoignages qui sont similaires à ceux des croyants. Et surtout, l'étude montre que cette expérience psychédélique s'est montrée positive sur le long terme.